Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De l'auteur de La cantatrice chauve, des chaises, du roi semeur ou du rhinocéros, on a sans doute un peu oublié aujourd'hui qu'il s'essaya aussi au cinéma, où, disait-il, on peut autoriser l'image à parler plus fort que les mots. Après avoir, en 1959, écrit le scénario d'un film d'animation du cinéaste polonais Jan Lenica, Eugène Ionesco écrivait, réalisait et interprétait seul La Vase, en 1970, 5 ans plus tard, dans les 7e et 8e volets d'une série de 12 entretiens accordés à Claudine Chonez, il revenait sur cette expérience et évoquait également le film de San Bartolomé provisoirement intitulé Le Minotaure, qui finirait par s'appeler Ariane, et dans lequel il venait de jouer, aux côtés d'Emmanuel Riva et d'Isabelle Adjani. Première diffusion sur France Culture, les 25 et 26 mars 1975.
Qui est-ce que vous admettez, ou peut-être que vous aimez beaucoup parmi vos cadets ?
Il n'y en a pas beaucoup parce que la mise en scène a pris le pas sur le texte. Alors, ils jouent, ils inventent des textes. Il y a des théâtres, il y a des créations collectives, où il y a des pièces plus anciennes, des autres siècles, que l'on joue, que l'on reprend. Alors, il n'y a presque plus d'auteurs, mais il y en a que j'aime beaucoup. C'est du billard. Weingarten, peut-être Haïm.
Oui.
Et puis, on voit guère d'autres.
Vous n'aimez pas Rabal ?
Ah, si.
Ah, ça m'aurait étonné que vous ne l'aimiez pas.
Si, j'aime Rabal. Et je n'aime pas Grunberg, par exemple.
Oui.
Il a bien commencé, mais avec son Dreyfus, il est assez loin de la réalité, il fait d'une façon un peu trop humoristique, un peu boulevard.
Pinter ?
Pas du tout. Un théâtre de boulevard plus intellectualisé. Ce sont des problèmes psychologiques, et sociologiques. Bon, c'est pas la peine de dire que j'aime Beckett. Il est mon cadet.
Et Beckett est plus jeune que vous ?
Non. Il est venu au théâtre après moi.
Ah oui.
Je suis venu au théâtre en 50, et puis 51, 52, j'ai eu des pièces, et lui, il a été joué en 53.
Bien, eh bien, nous venons de parler du théâtre abondamment, et Dieu sait que vous, on ne peut pas dire que vous ne vous y intéressez pas. Alors, avec l'esprit de contradiction qui vous caractérise, pourquoi est-ce que vous avez répété des tas de fois sur tous les tons « Le théâtre m'embête » ou même « J'en ai marre »,« J'étais pas fait pour être auteur de théâtre » et « C'était pas ma vocation ».
Oh, vous savez, tout est vrai. Tout est vrai et tout est faux. Et il faut plusieurs vérités particulières pour en faire une vérité totale.
Donc un jour c'est oui et l'autre jour c'est non.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le théâtre qui me déplaît, surtout le théâtre de boulevard. Mais c'est toute la littérature qui, dans certains moments, me déplaît fondamentalement.
Mais il ne s'agit pas de celle des autres, il s'agit de votre goût à vous d'écrire des pièces ou d'écrire des romans.
Moi, je me mets dans les autres. À quoi est bonne la littérature ? Et j'ai cherché pendant longtemps cela, parce que la littérature n'amène pas une réponse, puisque quand elle est vraie, elle n'est pas leçon, elle n'est pas didactique, elle est interrogation.
Oui.
Et cette interrogation qui doit passer dans les autres. Et c'est à eux de se poser la question à leur tour et de donner une réponse. Alors je vous dis que pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Je perds mon temps. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça pouvait quand même servir à quelque chose. Ça humanise les gens, ceux qui lisent de la littérature.
Oui.
Vous allez peut-être être en colère, mais je dis que si les hommes politiques, ou le pays où les hommes politiques lisent de la littérature et sont eux-mêmes lettrés, ces gens-là sont beaucoup plus humains, beaucoup plus humanisés, connaissent mieux les gens qu'ils administrent. Regardez Brejnev, l'adjudant. Rien, comprend rien. Bon, regardez
Pinochet,
c'est un militaire idiot et stupide. Tandis qu'en France, pourquoi vivons-nous mieux? Et pourquoi les hommes politiques sont-ils à la fois si compréhensifs et si faibles? Eh bien, c'est parce qu'ils sont de grands lecteurs. Bien, je ne sais pas si je peux en nommer. Prénommé quand même, Edgar Faure, c'est le latin et le grec. Pompidou était professeur de grec.
Enfin, ça, c'est plutôt la culture, n'est-ce pas? Vous avez écrit, vous avez dit une fois une chose qui est bien du Ionesco, qui d'ailleurs n'est pas dénué de sens du tout. Vous avez dit « j'écris pour savoir pourquoi j'écris ».
C'est vrai.
Parce qu'en effet, pourquoi ne pas cultiver son jardin tranquillement et...
Oui. Oui, pourquoi penser?
Oui, et pourquoi juger utile de l'exprimer,
oui. Eh bien, ça,
pour des gens dont vous semblez persuadés par avance qu'ils n'en tiendront aucun compte, car oui. Ça c'est bien votre pessimisme
oui.
intégral, c'est de ne pas penser que sérieusement vous serviez à quelque chose. Oui. Enfin, ça dépend des moments.
Ça dépend des moments. Pourquoi j'écris? Ben, j'ai dit en effet que j'écris pour me le demander.
Oui.
Mais c'est comme si vous me demandiez pourquoi je respire. Écrire, c'est aussi une fonction indispensable. Cela sert peut-être à quelque chose, probablement, puisque depuis des siècles et des siècles, on écrit. Et encore, c'est pas sûr que ce soit une chose indispensable. On fait tellement de choses qui ne sont pas indispensables depuis des millénaires.
Enfin, en gros, tout de même... ça vous soulage au moins de temps en temps de votre conception plutôt sombre de la vie.
Au moment où j'écris, je me libère totalement de moi-même. C'est-à-dire, je vends mes entrailles. Ce sont mes tripes que j'étale, comme le font tous les écrivains. Et c'est pour ça que c'est assez embêtant de voir une pièce de théâtre qu'on a écrite. Tout ce souffrance, tristesse, passion, etc., toutes ces tripes ne sont plus qu'un matériau avec lequel on construit quelque chose. Et tout ce qu'on a pensé, souffert, enduré, etc., tout cela se trouve transposé dans cette sorte d'architecture vivante qu'est la pièce de théâtre, par exemple.
Vous avez fait beaucoup d'autres choses à côté, peut-être
oui.
pour vous en distraire. Ça va de la conférence à l'argument de ballet, et du cinéma, bien entendu, au jeu de l'acteur, et enfin, etc. Alors, vous avez fait beaucoup des conférences, ça vous ressemble assez peu, avec votre côté solitaire et rétractile, si je peux dire. Le conférencier est en général un personnage jovial et ouvert et qui flatte son public. Ça ne correspond pas à votre caractère. Pourquoi en avez-vous fait tout de même beaucoup? Le goût de voyager?
Il me semblait impossible, il y a des années, de me mettre devant un public et de donner une conférence. Et donner une conférence, ce n'est pas une joie, ce n'est pas un plaisir. Mais j'ai été tenté, il y a 15, 16 ou 17 ans, par l'idée d'aller faire un voyage. Alors on m'invitait à aller à Rome, à Düsseldorf, à Berlin, à Londres, à New York, etc., pour donner des conférences aux instituts français.
Comment expliquez-vous que vous aimiez tellement voyager?
Pour échapper à moi-même, pour tenter une évasion, pour dépasser ma solitude. Je sais un peu pourquoi j'aime beaucoup les voyages. Parce que j'échappe au quotidien et à l'habitude. Et quand je suis dans un autre pays, dans une autre ville, j'ai de nouveau ce sentiment régénérateur de me trouver dans un monde bizarre et à la fois merveilleux. quand on voyage, 3 jours, par exemple, on voit une ville nouvelle. C'est extraordinaire. 3 jours, ça a la richesse de 3 mois, au moins.
Vous avez un public évidemment chaleureux, qui est confiant, qui oui. ça vous touche un petit peu.
Je dois vous dire que ma femme y est pour beaucoup. C'est elle qui me pousse à,
oui.
à sortir. Les Adapté. Voyages sont vraiment des sorties.
Oui.
Des sorties de soi-même.
Une autre de vos activités, c'est le cinéma, qui n'est pas sans importance, enfin, à côté du théâtre. Je dirais que vous êtes le seul auteur et acteur de La Vase, un film qui a été tiré d'ailleurs d'une nouvelle dont vous étiez l'auteur. Vous avez aussi écrit le scénario de La Colère dans un film connu qui s'appelle Les 7 péchés capitaux. Et puis, nous allons parler de ce que vous allez éventuellement encore jouer ou créer au cinéma. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, le cinéma, par rapport au théâtre? Il y a une différence essentielle. Comment vous concevez, pour vous-même, le rapport des deux activités?
J'ai des moments de lucidité à la pointe de cette... lucidité, il y a ceci, senti et non dit, je n'y comprends rien, il n'y a rien à comprendre avec nos moyens normaux, et puis c'est tout. Bon, j'ai déjà dit que cet acte de conscience et la conscience suprême. J'allais dire, tout le reste n'est que littérature. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à écrire, je m'éloigne de ce moment de lucidité, d'interrogation et de lucidité mélangée.
Oui.
Après, je fais comme tout le monde, je vis. Et de ce moment majeur, j'essaye d'en tirer des choses. Mais à partir où je veux utiliser ces moments de conscience aiguë pour la culture, je ne suis déjà plus dans ce moment de connaissance aiguë. Pénétrant. Bien. Alors, tout ce qui a été ressenti, vécu d'une façon indicible, devient dicible, si je puis dire. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, tout n'est que littérature. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'homme fondamental qui s'interroge sur des choses fondamentales, c'est tout simplement quelqu'un qui utilise des thèmes et qui essaye de les développer. Comme je le disais, ce n'est plus qu'un jeu. Et c'est un travail d'artisan. J'ai un métier comme tout le monde. Bon, alors, ce jeu moins profond que le jeu métaphysique, ce jeu second, c'est un travail d'homme de lettres. Ces thèmes, qui sont d'une façon moins intense, mais qui sont tout de même les thèmes de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que la vie, où ça va, le malaise existentiel, etc., j'essaye de les développer de différentes façon. C'est-à-dire, j'essaye de les mettre dans un langage, dans des langages différents, d'où roman, théâtre, cinéma et même jeu de comédien.
Une Alors, façon plus intime sans doute qui est le journal, où vous vous rapprochez probablement le plus possible de votre être intime.
Oui, j'essaye de me rapprocher de cet être intime dans le journal.
C'était le 7e volet d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco. Tout de suite, le 8e moment de cette rencontre.
Le cinéma, que ça vous apporte? Qu'est-ce que C'est plutôt un divertissement.
C'est une construction aussi importante que le théâtre, bien sûr. C'est une façon de dire la même chose, mais de le dire autrement.
Oui,
par
non.
les moyens de l'image, par oui. les, plutôt que par les moyens de, des mots.
Vous avez peut-être déjà commencé, vous allez me le dire, de tourner dans le Minotaure de San Bartolomé.
Oui.
Oui, avec ces charmantes filles qui s'appellent Emmanuel Riva et oui. Isabelle Adjani. En deux mots, enfin, qu'est-ce que c'est que...
D'abord, ce sont des gens jeunes qui font le film. Et j'aime les gens jeunes parce que ils apportent toujours quelque chose. En réalité, les gens jeunes sont plus vieux que nous. Il y a 30 ans d'histoire qui les séparent. Et nous sommes beaucoup plus vieux que nos ancêtres gaulois ou daces. C'est-à-dire que le mouvement de l'histoire fait qu'ils ont accumulé une expérience de plus.
Oui.
Même si cette expérience de l'histoire n'est pas tout à fait consciente chez eux, ils l'assument quand même volontairement ou involontairement.
C'est sûr.
Bon, alors ce film, je ne sais pas ce que c'est. J'ai voulu travailler avec eux et aussi j'ai voulu être aussi de l'autre côté, être acteur par exemple. Surtout j'aime beaucoup les comédiens. Les comédiens, disait Chevalier, qui était venu peu de temps avant sa mort à la Huchette, les comédiens, disait-il, ce sont les derniers religieux, ce sont les religieux de notre temps. En effet, ils nous prennent à charge, nous, avec nos passions, avec etc. Et il faut pour cela une grande dose de générosité. Dans la vase, ce n'était pas tout à fait cela, puisque je me représentais moi-même. J'étais l'auteur-acteur. Mais maintenant, je suis uniquement acteur. Je suis dirigé, et comme tous les comédiens, comme tous les acteurs, je ne connais pas le film. Je ne connais pas le scénario.
Oh.
Je sais... Mais le metteur en scène non plus ne sait pas très bien. Il a un thème général et il construit au fur
Alors,
et à mesure.
Ce thème vous a plu, sans ça vous n'auriez pas accepté. Quel est ce thème qui vous a plu?
Eh bien, je suis le père du Minotaure. Mais je ne sais pas très bien, je vous disais, comment ça va finir.
Mais ce n'est pas dans celui-là, alors que vous êtes Monsieur Loyal, je confonds tout.
Oui, alors ce Monsieur Loyal est un personnage assez antipathique,
oui.
infiniment autoritaire. Fils, le Minotaure, est en conflit avec son père, avec Monsieur Loyal, avec moi, etc. Mais je n'en sais que des petits bouts, ce que j'ai fait, et puis un très vague aperçu.
Mais alors ça, c'est pour vous une espèce de, comment on dirait pédantesquement, de catharsis que de jouer le rôle du père, puisque nous avons dit qu'une grande partie de l'explication de votre théâtre, c'était l'horreur du père, n'est-ce pas, de l'autorité inconditionnelle. Et voilà que vous vous mettez volontairement dans le rôle.
En effet, pour moi, c'est un psychodrame.
Oui, ça a été une expérience.
Alors là, c'était beaucoup plus agréable que l'autre expérience où je me jouais moi-même.
Ah hein, oui.
Où je m'enfonçais dans mon personnage.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut se libérer de
oui.
son personnage.
Vous sortiez de vous-même.
Et ça m'était agréable.
Passons à une autre de vos activités qui a l'air peut-être de devoir devenir considérable et que vous avez l'air peut-être de préférer quelquefois au théâtre, c'est l'écriture purement littéraire. C'est-à-dire d'abord les nouvelles. Beaucoup de gens ignorent que vous êtes l'auteur d'un recueil de nouvelles, il y en a peut-être même plusieurs, je m'excuse, enfin en tout cas un qui est connu, qui est La photo du colonel, et que, chose qui est assez remarquable, et je voudrais que vous vous expliquiez là-dessus, un certain nombre, pas une, mais deux, mais trois, peut-être plus, je ne sais pas, de vos pièces ont été bel et bien tirées de nouvelles. Est-ce que vous aviez écrit ces nouvelles avec l'idée d'en tirer des pièces ou pas du tout?
Oui.
Et alors?
Pas du tout. J'écris ça comme des nouvelles, tout simplement.
Oui.
En corrigeant mes épreuves, j'ai eu l'occasion de les relire. Il m'est apparu que, en somme, c'était du spectacle, c'était du théâtre. Et qu'on pouvait en faire des films ou des pièces.
Est-ce que vous en dites autant du solitaire de votre dernier roman?
Oui. Le solitaire fait partie d'un ensemble. Un ensemble qui est donc, le solitaire, qui est ce formidable bordel et la vase. C'est à peu près les mêmes thèmes, à peu près les mêmes ou le même personnage qui est là-dedans. Mais une fois que ce thème a été vécu, la littérature, comme je le disais, la littérature le dépasse ou s'en écarte plutôt. Alors, j'ai essayé de présenter ce thème de différentes façons.
Ce thème, dites-nous-le en un mot, nous le connaissons, oui. Puisque c'est le thème essentiel de votre vie. Mais tout de même, le personnage du solitaire, c'est le type qui s'enfonce dans la vase et qui vit dans un formidable bordel.
C'est ça. Un bordel qui est l'univers.
Oui, c'est ça. Toujours la même chose, le type qui n'est pas adapté à la vie. Qui n'est...
Cette histoire de fou racontée par un idiot. Alors, dans le roman, c'est le personnage qui parle tout le temps. C'est un long solitaire qui parle tout le temps jusqu'à la fin. Et il est tout seul. Non, il n'est pas tout à fait tout seul. Il a un certain temps, il va au bureau, il travaille au bureau, il voit des amis qui ne sont pas de véritables amis.
Oui, il va au restaurant.
Et il s'ennuie au restaurant. Et puis, il se retire de la compagnie des hommes. Il vit tout seul, c'est le solitaire. Et c'est à ce moment-là, dans un moment de méditation désespérée, qu'il entrevoit peut-être... une lumière qui le guide. Bon, mais au point de vue technique, ce qui était amusant, c'était ceci. Ce personnage parle tout seul. Et alors, je dis, je vais en faire une pièce de théâtre, parce qu'il me semble que le solitaire ne peut pas être une pièce de théâtre. Quand j'ai écrit Le piéton de l'air, qui était une nouvelle, j'étais attiré par la même difficulté. Ce n'est pas une pièce de théâtre.
Un défi.
Alors, puisque ce n'est pas une pièce de théâtre, il faut nécessairement en faire une pièce de théâtre. Et c'est ce que j'ai fait avec Le Solitaire. Seulement, j'ai tout renversé. Dans Le Solitaire, personne ne parle sauf Le Solitaire. Et dans ce formidable bordel, tout le monde parle autour de lui et lui, il ne fait qu'écouter. Donc, il y a un renversement.
Mais c'est très intéressant. Ça prouve, excusez-moi, vous doutez quelquefois de vous. Alors, c'est pour ça que je peux dire que ça prouve une extrême souplesse technique. La seule faculté que vous avez d'avoir changé radicalement la technique dans les deux sens. C'est ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que nous pouvons alors parler aussi alors de cette xème activité qui est encore tout à fait différente et, comme je le disais, beaucoup plus intime, qui est le journal. Il paraît que vous avez tenu votre journal à peu près régulièrement depuis l'âge de 17 ans.
Oh, pas régulièrement. Dans mon adolescence, surtout entre 16, 17 et 23 ou 24 ans, 25 ans, j'avais un journal que je tenais tout à fait régulièrement,
oui.
Et qui comportait plusieurs cahiers. Ce journal n'existe plus. Je l'ai laissé en Roumanie, il a été brûlé, il est perdu. Et puis j'ai recommencé à écrire pour ce journal intime vers 46, jusque vers 51, 52, où j'ai trouvé un débouché, ce qui a fait que je ne parlais plus tout seul, mais je parlais, en fait, pour les autres. Bon. D'ailleurs, c'est dans la solitude qu'on parle aux autres, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est de ce journal-là que j'ai tiré quelques pages qui ont été publiées dans le journal En Miettes, et puis dans Passé, Présent, Présent, Passé.
Oui.
Avec quelques notes rares de journal, sur les problèmes d'actualité, politique,
etc. Le manuscrit, si on peut dire, du journal complet serait beaucoup plus copieux que ce qui a été publié.
Oui.
Vous avez beaucoup élagué pour la publication.
Oui, dix fois plus.
Oh là là, alors c'est vraiment un journal quasi quotidien pour qu'il puisse être si copieux.
Mais depuis des années, oui, ça l'était, mais ça ne l'est plus maintenant. Et d'ailleurs, oui. Tout n'était pas bon.
Oui, et ça ne vous gêne pas le fait qu'à partir du moment, enfin c'est une question bien classique que je vais poser à tous les auteurs de journaux soi-disant intimes, l'idée que vous savez que ça va être, maintenant que vous en avez publié un, puis deux, puis trois, il y en a au moins trois, hein, notes et contre-notes, journal en miettes, enfin c'est
il y a
une espèce de journal.
Journal et puis
journal
et
en miettes, et puis passé-présent.
Oui.
Donc vous savez que si maintenant vous continuez ce que je suppose, j'en sais rien, oui, à tenir
votre publier
journal.
Un nouveau...
Oui, alors vous savez qu'un jour ou l'autre il sera publié, et donc vous ne pouvez plus l'écrire dans la même optique que vous l'écriviez quand vous aviez 25 ans.
Difficile à dire, mais j'ai l'impression que lorsque j'écris, j'oublie qu'il y a les autres.
Ah oui.
C'est-à-dire consciemment j'oublie.
Oui.
Inconsciemment. Peut-être pas.
Vous vous trouvez devant un auditeur.
Oui.
Hein.
Et j'écrivais le journal, surtout vers l'époque 30, 35, 36, quand j'étais à Bucarest, parce que à ce moment-là, on ne pouvait plus publier, dire certaines choses.
Ah oui.
Parce que j'ai commencé très tôt à écrire de la littérature, à faire des articles de critique plus ou moins scandaleux. Et je publiais, donc, mais à partir d'un certain moment, je ne pouvais plus publier.
Quand vous écrivez un journal, est-ce que vous avez l'impression que ça va vous sortir un peu de cette solitude essentielle ? Est-ce que vous avez l'impression, peut-être fausse, que ça vous permet de communiquer, peut-être même de communier avec les autres ?
Ce qu'on écrit dans le journal n'est pas toujours le plus profond. Et c'est pour ça que la plus grande partie de mon journal n'est pas intéressante, n'a pas de valeur. En somme, le véritable journal, si on peut dire ainsi, n'est pas celui qu'on écrit sous la pression ou
des
sous l'irritation
quotidiens.
D'un événement quotidien.
Bien sûr.
Il faut creuser plus profondément, il faut laisser surgir des choses qui viennent de plus profond de soi-même.
Il y a ça aussi dans Quand le journal en miettes en particulier.
Oui, il y a cela aussi. D'ailleurs, être solitaire, ça ne veut pas dire être seul. C'est la solitude. Qui manque au monde moderne. La solitude qui permet le recueillement, la méditation, le retour sur soi. Un homme solitaire n'est pas un homme isolé. Je trouve que les gens sont beaucoup plus seuls quand ils sont ensemble et qu'ils répètent les mêmes slogans, etc. À ce moment-là, ce qui est le plus personnel, l'individualité, la personnalité de l'homme disparaît et il en souffre.
Oui, c'est sûr. Mais quand l'homme se place dans la méditation seul vis-à-vis de lui-même, dans le silence de la nuit, etc., est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous surtout, Ionesco, d'une solitude essentielle, c'est-à-dire de l'impossibilité fondamentale de communiquer profondément et intimement avec les autres hommes ?
Bien, je ne crois pas. On a toujours dit que j'écrivais un théâtre de l'absurde. Ce n'est pas d'ailleurs cela. J'ai accepté ce terme pour plus de facilité. Pour plus de commodité, en réalité, c'est, si je puis employer ce mot pour la littérature, c'est un théâtre agnostique,
oui,
plutôt qu'absurde. Et par ailleurs, je ne crois pas avoir traité de l'incommunicabilité. Si je pensais qu'on ne peut pas communiquer, je n'écrirais pas.
C'était les 7e et 8e volets d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco menée par Claudine Chaunaise et diffusée pour la première fois sur France Culture les 25 et 26 mars 1975.